civisme et droit du citoyen pour connaître ses droits, maîtriser ses devoirs et ses obligations.
Est-ce que les gens naissent égaux en droit, à l'endroit où ils naissent ?
Civisme et droit du citoyen, une émission pour un développement endogène du citoyen et de la société. Civisme et droit du citoyen, une émission de la web radio AWEVI présentée par Spirou Maoulé.
Est-ce que les gens naissent pareils ou pas ?
Soyez au rendez-vous tous les mardis à 17h, rediffusion tous les dimanches à 14h. AWEVI Info, l'information comme si vous y étiez.
Bien chers auditeurs de AWEVI Info, nous voici à l'heure de notre émission habituelle « Civisme et droits du citoyen ». Civisme et droits du citoyen, 50 minutes ensemble pour parler de la chose juridique, pour parler de la citoyenneté, pour parler du civisme. Civisme et droits du citoyen, c'est ensemble tous les mardis et tous les dimanches. Bien de choses à vous. Faisons suite à notre émission du 11 juin passé pour continuer à nous informer sur les assurances. Aujourd'hui, nous parlerons essentiellement du contrat d'assurance qui est très réglementé et qui pose d'énormes problèmes à la plupart de nos concitoyens. Il est un contrat très technique. Il est un contrat avec des incidences en argent. Il est un contrat qui a beaucoup de dispositions légales. et ça crée beaucoup de problèmes à nos concitoyens. Raison pour laquelle nous avons choisi de continuer à parler de l'assurance, mais tout particulièrement du contrat d'assurance. Mais avant d'y arriver, un rapide rappel de ce que nous avions dit à la dernière émission sur le sujet nous permet de dire que l'assurance sert à nous protéger dans notre vie quotidienne contre, par exemple, les conséquences d'événements dommageables et incertains. C'est pour cela que les assurances sont fondées sur la notion de risque, c'est-à-dire l'exposition à un danger potentiel inhérent à une situation ou à une activité et dont on ne pourrait affronter les conséquences financières, qu'elles soient liées aux biens ou aux personnes, mais également la prévention d'un avenir certain ou incertain que nous protégions dès maintenant. Enfin, nous avions dit que les assurances peuvent être classées en deux grandes catégories. Les assurances de dommages, qui regroupent les assurances de responsabilité, c'est-à-dire, par exemple, la responsabilité civile familiale, la responsabilité civile du conducteur, la responsabilité professionnelle. À côté de cette assurance de responsabilité, il y a les assurances de biens, notamment les assurances liées à l'incendie, les assurances liées au vol, aux dégâts des eaux, aux bris de glace, aux catastrophes naturelles et aux attentats. Ça a été la première catégorie d'assurance qui est les assurances de dommages. La deuxième grande catégorie, c'est les assurances de la personne qui couvrent les risques inhérents à la vie humaine et proposent un ensemble complet de solutions adaptées à chaque situation, telles que le décès, la maladie, l'invalidité et les assurances en cas de vie. Voilà ce que nous avions eu à dire la dernière fois, en gros, et qui va être le soubassement, la base de ce que nous aurons à dire aujourd'hui, qui est lié essentiellement à la conclusion du contrat d'assurance.
Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dance cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven. Kids that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together dancing cheek to cheek, oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now, mama, dance with me. I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we out together, dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. And we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me. I want my arm about you, the charm about you will carry me through to
C'est vrai que le contrat est en principe réglementé par le code civil. Mais particulièrement pour le contrat d'assurance, en dehors des règles de code civil qui sont utilisées, au Togo, les lois qui réglementent les assurances sont prioritairement contenu dans le code CIMA, qui est la conférence interafricaine des marchés d'assurance, s'appliquant depuis 1992 aux pays suivants: le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et évidemment le Togo. La première particularité que nous trouvons dans ce document est qu'il donne la priorité à l'utilisation du franc CFA pour la conclusion des contrats. Car nous lisons à l'article 3 qu'il est interdit aux personnes physiques résidant sur le territoire d'un État membre de la CIMA et aux personnes morales pour leur établissement située sur le territoire d'un État membre de la CIMA de souscrire des contrats d'assurance directs ou de rente viagère non libellés en francs CFA, sauf autorisation du ministre en charge des assurances de l'État membre. On comprend donc la volonté de faciliter les transactions liées au contrat d'assurance en demandant l'utilisation du franc CFA, sauf autorisation particulière du ministre qui a en charge les assurances. Le législateur du Code CIMA aura probablement une explication à la chose, mais il est évident que lorsque le franc CFA va changer, le Code CIMA serait alors obligé de changer. Le contrat d'assurance, quant à lui, est signé entre un souscripteur et un assureur. Le contrat d'assurance obéit d'abord et avant tout aux conditions d'un contrat de droit civil en ce qui concerne les règles de droit commun que sont par exemple la capacité de celui qui signe le contrat d'assurance, son consentement à la signature, l'objet de ce contrat qui doit être en principe prévu et régi par le Code CIMA et la cause de ce contrat qui doit être très claire, très certaine et en tout cas très conforme à la loi. Le contrat doit être rédigé par écrit dans la ou les langues officielles de l'État membre de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA en caractère apparent. Vous comprenez donc qu'on ne fait pas un contrat d'assurance de façon verbale. Il faut impérativement un document écrit. Mais avant la rédaction de ce contrat, on peut faire une proposition avec des questions préalables qui sont posées à l'assuré. L'assureur est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir une fiche d'information sur le prix, sur les garanties, sur les exclusions et de poser des questions au futur assuré, d'abord pour l'amener à savoir ce qu'il va souscrire comme assurance et pour permettre à l'assureur de s'assurer, si on peut répéter, que la personne avec qui il est en train de contracter a la pleine connaissance des conséquences de ce qu'il va faire. Ces questions que l'assureur doit poser à celui qui veut souscrire à l'assurance, ces questions donc doivent être suffisamment claires et précises pour enlever toute difficulté d'application qui pourrait découler du contrat. Ainsi, l'assureur qui a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre document, ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux, en termes vagues, n'a reçu qu'une réponse imprécise. L'assureur, contrairement à ce que nous pensons ou peut-être à ce qui arrive dans la pratique, l'assureur est obligé, est contraint d'expliquer clairement au souscripteur et de poser des questions assez simples, assez claires, assez précises pour que l'assuré, pour que le souscripteur puisse comprendre ce qu'il est en train de faire. Il ne s'agit pas de le piéger en laissant des éléments confus pour que après l'assuré ou le souscripteur ne puisse pas bénéficier des avantages de ce contrat parce que ça devient une question de finances, d'économie pour l'assureur. Mais ces formulaires de questions ou une proposition de contrat ne vaut pas le contrat d'assurance. Ce n'est pas le fait d'avoir rempli ces formulaires-là ou d'avoir répondu à des questions ou pour avoir reçu une proposition de contrat qu'il faut dire que le contrat d'assurance est déjà conclu. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré ni l'assureur. Seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. C'est-à-dire donc que il faut qu'à un moment donné, un document propre à la conclusion du contrat, que nous appelons la police d'assurance, soit signée, établie entre le souscripteur et l'assureur, avant qu'on dise que désormais entre les deux, il y a un contrat d'assurance. Le contrat d'assurance ne se présume pas. On ne dit pas que « Ah, donc tu as posé des questions, donc c'est que tu veux. » Ou bien « Je suis allé dire que je veux, et donc il y a contrat. » Non, il n'y a contrat d'assurance que lorsque vous avez établi une police d'assurance qui porte des mentions bien précises. Ces mentions sont notamment les noms et domiciles des parties, c'est-à-dire de l'assureur et du souscripteur. La chose ou la personne assurée, c'est-à-dire qu'on doit préciser qui on est en train d'assurer ou qu'est-ce qu'on est en train d'assurer. Ensuite, la nature des risques garantis. Qu'est-ce que ou qui est-ce que vous protégez? Ça doit être dit clairement dans la police d'assurance. Le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie. Le montant de la garantie. La prime ou la cotisation de l'assurance avec ses conditions de paiement. Les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée. Ici, c'est que vous avez fait le contrat, la police d'assurance a été signée et les délais que vous avez pris pour ce contrat-là, les délais sont arrivés à leur fin. Si vous avez mis dans le contrat, si vous avez mis dans la police que c'est à tacite reconduction, cela voudrait dire que le contrat est reconduit. On recommence par appliquer le contrat comme si vous venez encore de le signer. La tacite reconduction. On doit pouvoir l'insérer dans le contrat d'assurance avant qu'elle ne s'impose pose à l'assureur et au souscripteur. Autre chose, les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets. On doit également mentionner dans cette police d'assurance comment on peut continuer, comment on peut arrêter, comment on peut mettre fin au contrat qui existe entre le souscripteur et l'assureur. En plus de ces éléments-là, il faut ajouter les obligations de l'assuré à la souscription du contrat, en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques. Ça, c'est un élément très important auquel celui qui fait l'assurance doit faire attention. On mettra dans le contrat d'assurance ce qu'il est tenu de faire. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure parce que c'est vraiment le début des problèmes que nos concitoyens rencontrent avec l'assurance. Pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages pour déterminer le montant de l'indemnité doivent être également écrits dans le contrat d'assurance, dans la police d'assurance. La prescription des actions qui dérivent du contrat d'assurance doivent être mentionnées. La prescription, c'est que après un certain délai, vous ne pouvez plus réclamer certains droits. Si tel est le cas, on doit mentionner ça dans le contrat d'assurance. Les formes de résiliation ainsi que le délai de préavis. Les clauses de police édictant les nullités, les déchéances, les résiliations de plein droit ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparent. C'est-à-dire que si une raison doit faire que le contrat ne peut plus se poursuivre, si un événement doit entraîner la fin de droit de ce contrat-là, il faut que ces informations soient mentionnées de façon très visible, de façon très apparente dans la police d'assurance.
I have tried.
constatons malheureusement, et là c'est un appel à ce que les choses se fassent mieux. Nous constatons malheureusement que les commissionnaires ou les envoyés des compagnies d'assurance pressent très souvent les futurs souscripteurs à signer sans leur donner véritablement le temps de comprendre. Pire encore, il y en a qui donnent des informations relativement vagues et disent aux futurs souscripteurs que voilà un peu ce qu'il a à comprendre et qu'il peut signer le contrat sans problème. Il fait preuve d'une légèreté envers le souscripteur en lui faisant croire que le seul fait de lui faire confiance serait suffisant pour que le contrat puisse ne pas créer de problème aux futurs souscripteurs. Parfois, et ça c'est ce que nous voyons avec certaines compagnies, la police d'assurance est rédigée en écriture avec une taille très petite, avec la couleur rouge pâle ou avec la couleur bleu ciel, ce qui rend difficile la lecture de la police d'assurance et qui fait qu'à un moment donné, le souscripteur est obligé de dire « Ok, bon, explique-moi un peu et puis ça va ». Il faut donner l'opportunité à nos concitoyens de prendre le temps de lire posément, de comprendre intégralement, de poser les questions les plus importantes pour comprendre ce qu'ils sont en train de signer, pour comprendre le contrat d'assurance qu'ils sont en train de conclure. Parce que le contrat d'assurance a des obligations. Et lorsque l'assuré ou le souscripteur n'a pas respecté les obligations qui proviennent de ce contrat, on lui rappelle cela pour ne pas avoir à payer le sinistre, le dommage qui est survenu. On lui dira par exemple, « Oh, tu n'as pas fait ceci et donc tu n'as plus droit à rien du tout. Oh, tu aurais dû signaler ça un peu plus tôt. Comme tu n'as pas fait, tu ne peux plus prendre ton argent. Tu n'as pas, etc., etc. » Donc, autant d'éléments importants que très souvent, le souscripteur ne connaît pas, soit par méconnaissance simple, soit par négligence, soit par paresse, ou alors il est incité par le commissionnaire qui vient le rencontrer à procéder ainsi. Malheureusement, quand le problème va découler de cette légèreté, il ne pourra pas dire « Non, non, je n'ai pas pu faire parce qu'on ne m'a pas. » Il n'aura pas de preuve pour dire « On ne lui a pas. » Parce que la compagnie d'assurance ou l'assureur va lui montrer la police sur laquelle c'est écrit clairement qu'il aurait dû faire ceci ou cela. S'il avait vu ou s'il peut démontrer qu'on ne lui a pas montré, ou si ça n'existe pas, alors il pourrait utiliser les voies légales et juridiques pour réclamer ses droits. Mais très souvent, c'est lui qui va perdre parce qu'il n'a pas eu l'information, mais il ne peut pas démontrer que ce n'est pas de sa faute. Notre émission permet donc à chacun de nous de savoir qu'avant de signer une police d'assurance, prenons tout notre temps pour lire, pour comprendre, pour savoir, pour intérioriser ce que nous aurons à faire pour que, quand le moment serait venu, on puisse nous payer notre dû sans aucun problème. Les gens n'auront donc plus à faire une hypertension ou à maugréer des regrets parce que on ne leur aurait pas donné ce qu'ils estiment avoir droit à. C'est pour cette raison que nous allons prendre le temps dans notre émission de ce jour de relever de façon générale quelques obligations que l'assuré est tenu d'honorer. On peut les regrouper en quatre grandes obligations qu'il doit remplir. Le souscripteur ou, à sa place, l'assuré ou le souscripteur assuré a des obligations. Et quand nous parlons d'obligations, c'est que vous êtes contraint, vous êtes tenu, vous êtes invité à faire. La première obligation, c'est de payer la prime ou cotisation aux époques convenues. Ça fait payer, mais payer au moment convenu. Donc, vous devez voir dans la police d'assurance combien vous devez payer, quand vous devez payer et en principe où vous devez payer. La loi va dire que la prime est payée chez l'assureur ou l'intermédiaire en faisant attention aux dispositions légales. Il est interdit aux entreprises d'assurance, sous peine de sanction, de souscrire un contrat d'assurance dont la prime n'est pas payée ou de renouveler un contrat d'assurance dont la prime n'a pas été payée. Et donc, les compagnies d'assurance étant obligées par la loi de ne vous payer que si vous, auparavant, vous avez payé la prime ou la cotisation, vous convenez avec moi que c'est une obligation, je vais ajouter, très importante. Combien vous devrez payer doit être écrit quelque part dans la police d'assurance. Maintenant, est-ce que vous pouvez négocier avec la compagnie pour que, contrairement à ce qui est écrit, vous ayez une autre façon de payer? Assurez-vous que si la compagnie a accepté, que cela soit écrit quelque part. Parce que parfois, c'est juste un agent qui prend une décision qui n'est peut-être pas la bonne, mais croyant bien faire ou ne sachant pas qu'il est en train de mal faire, il va vous induire en erreur. Combien vous devez payer, c'est écrit. Comment vous devez payer, c'est qu'il faut aller chez l'assureur. Là encore, la loi dit l'intermédiaire, c'est-à-dire celui qui est venu prendre contact avec vous. En français simple, nous l'appellerons le démarcheur d'assurance. Certains l'appelleront le commissionnaire, etc. Cette personne qui est venue vers vous, est-ce que cette personne a le droit de collecter l'argent? La loi dit que oui, l'intermédiaire peut prendre, mais Est-ce que vous avez suffisamment confiance, vous, en cet intermédiaire pour lui remettre l'argent? Dans tous les cas, assurez-vous d'avoir un reçu. Assurez-vous que celui qui est venu vers vous a une délégation bien écrite de la compagnie d'assurance qui lui permet de récupérer l'argent au nom de la compagnie. Ce qui est plus simple, c'est d'aller chez l'assureur lui-même pour payer. Et aujourd'hui, avec la télémonnaie, vous pouvez envoyer l'argent directement à la compagnie si c'est permis. J'ai déjà parlé de la période. N'oubliez pas de savoir à quel moment vous êtes tenu de payer. Ce qui est clair, c'est que la compagnie, si le problème survient, ne va pas vous payer si vous n'avez pas payé vos primes d'assurance. C'est vrai que parfois, on peut vous accorder un délai de paiement qui n'est pas forcément le délai qui est prévu dans la police. Ce délai marque qu'on peut vous donner, la loi dit que ça ne doit pas dépasser 60 jours à compter de la date de prise d'effet ou de renouvellement du contrat pour que ça demeure dans les conditions. Ce qui signifie qu'en principe, la prime doit être payée dès que vous avez signé le contrat ou alors selon l'assurance que vous êtes en train de faire en respectant les délais qui sont impartis. Je répète pour que ça soit dans nos têtes à nous tous, la loi dit qu'à défaut de paiement de la prime dans le délai convenu, le contrat est résilié de plein droit. La portion de prime courue reste acquise à l'assureur, sans préjudice des éventuels frais de poursuite et de recouvrement. C'est-à-dire que si, par exemple, vous devez payer la prime en trois tranches, janvier, février, mars, que vous avez payé seulement janvier et que vous arrivez, par exemple, à mai et que vous avez un problème, ça voudrait dire que vous n'avez pas payé les deux autres tranches dans les délais convenus. La compagnie d'assurance est en droit de dire qu'elle ne vous paie pas pour ce qui vous est arrivé. Pire encore pour vous, la compagnie est en droit de réclamer ce que vous aurez dû payer avant qu'elle ne prononce qu'elle a mis fin au contrat. Donc la compagnie prendra peut-être deux tranches. Vous n'aurez plus à récupérer ce que vous avez déjà payé, mais le contrat n'existant plus, quand il va y avoir un problème, vous ne serez malheureusement pas dédommagé. Il est donc important de payer les primes dans les délais convenus. Vous pouvez payer directement, comme on le dit, main à main. Mais vous pourrez payer également en émettant un chèque. Mais lorsqu'un chèque ou un effet remis en paiement de la prime revient impayé, l'assuré est mis en demeure de régulariser le paiement dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de la réception de l'acte ou de la lettre de mise en demeure. À l'expiration de ce délai, si vous n'avez pas régularisé, le contrat est résilié de plein droit. Et comme on l'avait dit tout à l'heure, ce que vous avez payé ne vous sera pas restitué, mais l'assureur a encore en plus le droit de vous poursuivre pour que vous puissiez payer ce qui est déjà échu et que vous n'avez pas encore payé. La première obligation, donc, qui est de loin la plus importante, est donc de payer la prime d'assurance. La deuxième obligation, c'est de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur vous interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. Ici, il s'agit de faire attention à cette façon malicieuse et mauvaise de chercher à tromper les gens. Vous ne déclarez pas ce qui est vrai en pensant que vous êtes en train de tromper l'assureur. Lorsque cela va se faire savoir, vous risquez de ne plus avoir droit à ce qui a été prévu dans votre police d'assurance. Par exemple, vous avez acheté un véhicule 4e main ou 5e main. Vous êtes allé déclarer que c'est un véhicule tout neuf. Vous avez falsifié peut-être les pièces pour montrer que c'est un véhicule tout neuf. L'accident est survenu et les experts ont démontré qu'en réalité, votre voiture n'est pas neuve. Ça a un effet immédiat sur les calculs qui ont été faits pour fixer ce qu'on va vous payer en dédommagement lorsque vous avez souscrit à la police d'assurance. Deuxième obligation donc de l'assuré, c'est de déclarer exactement et en toute franchise ce qui est demandé par l'assureur.
I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I'll play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye and I choke, I try to walk away. We'll be right back.
Wally Web Radio. L'information comme si vous y étiez.
À Wally Web Radio.
La troisième obligation est directement liée à la deuxième. Il s'agit de déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et qui rendent de ce fait inexact ou caduque les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné dans l'obligation 2. Lorsque, par exemple, nous prenons une personne qui s'est déclarée saine de corps et d'esprit et qui a souscrit, par exemple, à une assurance pour son décès et qui a, par exemple, dit qu'il avait 55 ans. Ça permet à l'assureur de faire des calculs pour fixer d'abord sa prime, ensuite la durée de cotisation et enfin le montant à verser quand, par exemple, il va mourir. Maintenant, si nous imaginons que, entre-temps, vous avez fait un accident de véhicule et que ça a affecté substantiellement votre corps. Par exemple, vous avez maintenant un appareil qui vous assiste dans la respiration. Cet événement-là est nouveau. Il n'existait pas au moment où vous avez souscrit, mais il a un impact direct sur le contrat que vous avez signé. Vous ne pourrez donc pas cacher cet événement à l'assureur parce que lorsqu'il va le découvrir par expertise, parce que le sinistre prévu est arrivé, vous risquez de ne pas être payé. C'est vrai que malheureusement, les gens disent que les assureurs ne veulent pas payer, donc ils ont inventé. Ils n'ont pas inventé. La loi dit, s'il y a un événement nouveau, vous devez le déclarer. L'assuré doit donc, par une lettre recommandée, contresignée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de 15 jours à partir du moment où il en a eu connaissance lui-même. En cas de lettre contresignée, un récépissé servant de preuve doit être délivré à l'assuré. Et en cas d'aggravation du risque en cours de contrat, tel que si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait pas fait sans demander une prime plus élevée, l'assureur a la faculté de dénoncer votre contrat en remboursant peut-être la fraction de prime non courue, soit en vous proposant un nouveau montant de prime. Si pour la fixation de la prime, il a été tenu compte de circonstances spéciales mentionnées dans la police aggravant les risques, et si ces circonstances viennent à disparaître au cours de l'assurance, l'assuré a le droit de résilier le contrat sans indemnité si l'assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante d'après le tarif applicable lors de la souscription du contrat. Ce qui voudrait dire que l'assuré lui aussi a les moyens de demander à l'assureur de diminuer la prime qui est cotisée si des événements justifient cela, en réduisant les risques qu'il fait courir à la survenance de ce risque-là. Quatrième obligation, et on va finir par là, c'est de donner avis à l'assureur dès qu'il a eu connaissance, dès qu'il en a eu connaissance, et au plus tard, dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à 5 jours ouvrés. En cas de vol ou en cas de sinistre, mortalité de bétail, ce délai est fixé à 48 heures. Les délais peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties, ce qui veut dire que dès que ce que vous avez garanti est arrivé comme sinistre, vous avez un délai très court qui est de 5 jours ouvrés pour informer l'assureur. Si vous faites ça, si vous avez fait toutes les obligations que nous avions eu à décrire tout à l'heure, on ne peut pas refuser de vous payer la prime, le montant dû comme dommage à votre sinistre. Enfin, le code CIMA fixe les obligations de l'assureur aussi, mais nous ne parlerons pas de ces obligations aujourd'hui, nous les réservons pour une prochaine émission. Aujourd'hui, ce qui nous importait, c'était de voir la situation de nos concitoyens à travers les obligations des assurés. Civisme et droits du citoyen pour aujourd'hui, c'est bien fini. Prochain rendez-vous, c'est sur le mardi prochain. Mais suivez, restez toujours avec nous pour suivre les rediffusions et les directs. Civisme et droits du citoyen vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.